Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
On commence ce matin avec un anniversaire.
Oui, de toutes les ruptures que sa présidence aura causées, la plus saisissante est sans doute celle des mots. Et, ironie du sort, alors que Donald Trump s'apprête à fêter demain son premier anniversaire à la tête des États-Unis, un mot, ou plus exactement, un slogan résonne tout particulièrement ce matin dans le magazine Slate, l'Amérique d'abord. À en croire le nouveau sondage publié hier par Gallup, il semblerait en effet que le reste du monde le lui rende bien à ceci près. Toutefois, que comme le boomerang qui revient infailliblement à la figure de celui qui l'a lancé, son slogan de campagne résonne à présent d'un tout autre pathétique. Dans ce sondage réalisé à l'échelle mondiale, on apprend que les États-Unis atteignent cette année un creux historique avec seulement 30% d'opinions favorables dans le monde, soit une baisse de 18 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Sur le continent américain, la grogne est surtout marquée au Canada, relève la presse de Montréal, avec une chute de 40 points en un an, mais les opinions sont encore plus défavorables dans certains pays, comme au Portugal, qui a enregistré une baisse de 51 points. L'impopularité de Donald Trump, estimée dans 134 pays à 43%, le place devant Vladimir Poutine et Xi Jinping en termes de détestation. La chute dans l'appréciation du leadership américain sous Donald Trump est donc vertigineuse, de sorte que l'Amérique d'abord, c'est donc d'abord cela, un président américain honni du reste du monde. Sur le plan strictement intérieur cette fois-ci, deux autres sondages ont été publiés hier, l'un par CBS, l'autre par NPR, et là encore ça se passe de commentaires. Entre 53 et 58% des Américains considèrent la première année de Trump comme un échec.
Bon, ça veut dire qu'il y en a entre 47 et 42% qui considèrent l'inverse, et c'est peut-être aussi cela qui lui donne le sourire. Il a une autre raison de sourire ce matin, Donald Trump.
Pour éviter un shutdown, comprenez la fermeture des administrations fédérales, la Chambre des représentants a voté cette nuit un budget provisoire, sauf que la menace de chômage forcé pour des centaines de milliers de fonctionnaires pèse toujours, puisque le Sénat doit à son tour se prononcer avant ce soir minuit. Or, les Républicains ne sont pas certains de pouvoir compter sur les 60 voix nécessaire. Signe d'ailleurs du suspense persistant, même depuis l'adoption à la Chambre d'une extension de 4 semaines du budget. Un compte à rebours figure toujours en bonne place sur l'écran de la chaîne d'information en continu CNN. Quoi qu'il en soit, Donald Trump, lui, semble être le seul aujourd'hui à Washington à ne pas s'inquiéter d'un possible shutdown. Peut-on lire sur le site de CNBC, à en juger par son compte Twitter, lequel reflète généralement la pensée du président. Sur les 36 messages qu'il a postés cette semaine, 3 seulement mentionnaient le mot fermeture. Enfin, à la Maison-Blanche, personne ne sait si dans le cas où le Congrès ne parviendrait pas à un accord aujourd'hui, le président a l'intention ou non de modifier ses plans de voyage pour le week-end. Donald Trump est en effet censé quitter Washington cet après-midi pour son club privé en Floride, où il célébrera donc le premier anniversaire de son investiture en organisant une collecte de fonds.
Et puis, direction Thomas, l'Afrique du Sud à présent, où les dérapages racistes attisent la colère.
Oui, depuis mercredi, jour de rentrée scolaire, des militants manifestent en bloquant l'entrée d'une école qui refuse d'intégrer des élèves noirs. Cette école, raconte ce matin la correspondante du Temps, dit aujourd'hui ne pas avoir suffisamment de ressources pour ouvrir des classes en anglais pour ses élèves. En clair, au prétexte qu'ils ne parlent pas la langue des Afrikaners, l'établissement refuse aujourd'hui d'intégrer 55 élèves noirs du quartier. Et c'est ainsi que les manifestants accusent donc les Blancs de se servir de leur langue comme d'un prétexte pour exclure leurs voisins de couleur. Une colère qui reflète les frustrations des jeunes noirs devant la lenteur des changements opérant en Afrique du Sud. Une colère sans doute attisée aussi par la stratégie populiste du petit parti de la gauche radicale, EFF, combattant pour la liberté économique, qui s'était déjà illustré la semaine dernière en saccageant plusieurs magasins de la chaîne H&M, accusé de racisme. La dernière campagne de promotion de la marque comportait en effet une photo montrant un enfant noir portant un sweatshirt recouvert de l'inscription « Coolest monkey in the jungle », le singe le plus cool de la jungle. Alors face au tollé provoqué par la publicité, le groupe a annoncé cette semaine leur retrait de cette photo et présenté ses excuses, sauf que la polémique s'est poursuivie sur les réseaux sociaux après que la mère du jeune mannequin a déclaré qu'elle ne trouvait pas ça raciste et qu'il fallait que les gens se calment et arrêtent de crier au loup tout le temps. Interviewée par la télévision britannique, elle a notamment raconté avoir elle-même été traitée de singe par une personne raciste, mais pour elle, la photo de son fils est quelque chose d'autre qui n'est pas infecté par quelques connotations que ce soit. Je vois juste un jeune garçon noir qui porte un t-shirt avec le mot singe dessus. Et c'est ainsi, raconte le magazine Slate, que la mère du jeune garçon a été à son tour vivement critiqué sur les réseaux sociaux, au point même de devoir déménager de son appartement de Stockholm pour des raisons de sécurité.
Et puis on termine avec le pape, lequel poursuit son voyage en Amérique latine, voyage rythmé par la polémique.
Oui, le souverain pontife est arrivé hier au Pérou pour une visite de 3 jours, mais c'est sa première étape chilienne qui retient encore ce matin l'attention de la presse, venue au Chili en grande partie pour panser les plaies d'une église discréditée pour son silence face à des scandales pédophiles. Le pape a certes multiplié les déclarations de contrition, mais étonnamment, note The Time, il a fini par défendre en revanche un évêque particulièrement décrié au Chili car soupçonné d'avoir tué les agissements d'un vieux prêtre pédophile. Le jour où vous m'apporterez une preuve contre l'évêque Barros, je vous parlerai. Il n'y a pas une seule preuve contre lui. Tout est calomnie, c'est clair, a lancé hier le pape aux journalistes avant d'embrasser ouvertement l'évêque en question, provoquant aussitôt une tempête au Chili, remarque à son tour The New York Times. De quoi surtout soulever des questions sur la sincérité de son engagement à réparer les dommages causés par les scandales d'abus sexuels.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, votre revue de presse internationale est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.